There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Je suis dans la jungle dense où je dois me battre contre l'un des terrains les plus hostiles du monde. Dans cette nature sauvage, la moindre erreur peut être fatale. Là, un cobra cracheur.
Les femmes qui éjaculent, on les appelle les femmes fontaines. Et c'est un sujet qui coule de source.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Salut, c'est Victoire Tuaillon.
Suite et fin de notre double épisode consacré aux problématiques du plaisir féminin. Dans l'épisode précédent, on a longuement parlé des orgasmes, de leur grande diversité, de l'importance de ne pas se fier uniquement à la vision scientifique des choses, mais d'accorder aux témoignages et aux ressentis des femmes toute la place qu'ils méritent. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on s'apprête à aborder le second volet de notre réflexion qui lui sera entièrement consacré à l'éjaculation féminine.
Oui, l'éjaculation féminine connaît un regain d'intérêt en ce moment, on en parle de plus en plus, notamment dans la pop culture. Elle est désormais plus facilement représentée, alors qu'elle a longtemps été un véritable tabou, ou alors une espèce de légende urbaine associée à la figure quasi mythifiée de la femme fontaine. On en parle, mais ça ne veut pas dire qu'on la connaît mieux. Elle fait encore l'objet de débats au sein de la communauté scientifique, et donc on a décidé d'essayer d'éclaircir un peu tout ça en se demandant, mais qu'est-ce qu'on sait véritablement des éjaculations féminines?
Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et comme vous l'aurez compris, nos invités pour ce second épisode, ce sont toujours la documentariste Ovidie et le médecin et journaliste Damien Mascret.
Pour commencer, on leur a tout simplement demandé à quoi ça ressemble concrètement une éjaculation féminine.
Ce qu'on appelle éjaculation féminine ou squirting en anglais, c'est du liquide transparent. Tiède, qui ressemble à de l'eau, qui sort par l'urètre à un moment de climax, de plaisir. Voilà, je ne sais pas comment mieux le définir. Parfois, c'est directement lié à un orgasme et parfois, ça peut survenir à un moment où il n'y a pas nécessairement d'orgasme et où va y avoir un plaisir intense ou quelque chose comme ça.
C'est beaucoup de liquide.
Ça peut être effectivement beaucoup de liquide. Ça peut tremper un matelas, ça peut tremper une serviette éponge. C'est pas mal de liquide. C'est pas un liquide qui tout à coup se met à s'écouler de façon abondante du vagin. C'est pas ça. C'est quelque chose qui sort de l'urètre, parfois en jet, parfois en, comment dire, un petit flot continu, comme ça, voilà, c'est variable d'une femme à une autre. En jet, parfois ça arrive parce que les contractions du périnée, si ça arrive par exemple au moment de l'orgasme, le périnée va se contracter, va s'ouvrir, se contracter, et donc tout à coup ça peut faire des petits jets, et puis parfois ça va juste couler tout doucement, c'est variable.
Est-ce que ça concerne toutes les femmes? Alors vous le disiez, il y a différentes manifestations en fonction des femmes justement, mais est-ce que ça peut concerner potentiellement toutes les femmes?
Ça ne concerne pas de fait toutes les femmes, ouais. Puisque beaucoup de femmes n'éjaculent pas, n'ont pas expérimenté ça, et c'est pas grave, c'est pas un graal que d'éjaculer,
oui,
c'est
pas une nouvelle, imposer une injonction supplémentaire,
c'est pas obligatoire, et pour certaines femmes en plus, ça n'apporte pas nécessairement de satisfaction supplémentaire. Oui. Donc c'est pas un graal, mais effectivement il y a des femmes à qui ça arrive et d'autres à qui ça n'arrive pas. Il me semblait que toutes les femmes étaient anatomiquement en capacité de le faire.
Oui.
Maintenant je sais qu'il y a plein d'études qui viennent se contredire. Moi je dirais que toutes les femmes peuvent le faire, puisqu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les années 90 dans le milieu féministe, féministe pro-sexe, féministe DIY, qui étaient des ateliers d'auto-exploration où on s'entraînait à éjaculer. Donc certaines femmes apprenaient à éjaculer. On constate aussi, même dans le milieu du porno aux États-Unis, que vu qu'il y a eu une demande des consommateurs, des spectateurs, en termes de squirting, il y a certaines actrices qui ont appris à éjaculer. Et aujourd'hui, en 2013, il y avait une étude qui était sortie qui disait que 16% des pornstars aux États-Unis interrogées éjaculaient, qu'elles avaient appris de fait à le faire sur les plateaux. En gros, en faisant des exercices de Kegel, c'est-à-dire des exercices de contraction du périnée, plus une certaine stimulation du point G avec les doigts. Donc, j'aurais tendance à penser que anatomiquement tout le monde peut le faire. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément déplacé son érotisme vers cette zone-là.
Oui.
Tout le monde ne le fait pas. Pour certaines femmes, ça va être extrêmement désagréable. Pour certaines femmes, ça va être une source d'angoisse aussi, parce que justement, elles vont imaginer qu'elles seront pipi dessus. Ça peut être culpabilisant. Il y a des hommes aussi qui peuvent se moquer d'elles. Voilà. Donc, oui et non. Potentiellement, probablement, oui. J'en sais rien, mais de fait, non.
Est-ce que, ouais, y a une distinction à faire entre éjaculation féminine et femme fontaine ?
Alors, c'est vrai que c'est assez... On vient de le dire, hein, c'est vrai que le territoire est encore en exploration. Tout n'est pas encore très clair dans cette affaire, si je puis dire, parce qu'on est parti du principe qu'effectivement, autour de l'urètre, hein, alors l'urètre, c'est ce qui est entre le tuyau entre la vessie et le méa urinaire pour faire pipi, eh bien, autour de l'urètre, il y a tout un réseau qui pourrait produire, sécréter, un petit peu comme le fait la prostate chez l'homme, le liquide prostatique, et bien là, sécréter un liquide particulier. On est parti de là tout simplement parce qu'en faisant effectivement des prélèvements, on s'est aperçu que le liquide pouvait contenir du PSA, qui est un antigène prostatique. Donc, on s'est dit, ça montre bien qu'il y a un résidu de prostate anatomiquement, puisque la femme n'a pas besoin de prostate, mais embryologiquement, et donc qui peut produire des enzymes. Donc, on voit bien qu'il y a bien une prostate féminine. Hein, c'était effectivement à l'époque la théorie. Et cette prostate peut sécréter. Alors,
c'est ce qu'on appelle les glandes de Schwann.
Voilà,
c'est
exactement. Mais la sécrétion peut être de 1 ou 2 millilitres. Ça ne peut pas absolument pas répondre à ce que vient de décrire Ovidie. Et puis en plus, on s'est aperçu là aussi, d'où certaines études qui ne viennent que par l'angle anatomique, que chez certaines femmes, le réseau justement n'était que très peu développé, alors que pour d'autres, il était très développé. En gros, une femme sur deux avait un réseau très développé, une femme sur deux avait quasiment pas de cet embryon de prostate. Donc vous pouvez dire, après tout, anatomiquement, la moitié des femmes auraient l'équipement pour produire ça. Maintenant, ce qui est venu compliquer et rajouter, c'est la théorie suivante qui a dit, attendez, c'est pas du tout un liquide qui vient de cet embryon de prostate, c'est de l'urine. Alors, les femmes ont dit, attendez, c'est pas de l'urine, on voit très bien la différence, ça n'a pas la même consistance,
ça n'a pas la même odeur,
ça n'a pas la même couleur, enfin bref, il y a des tas de... Alors bon, là, pour le coup, ça a quand même été un peu pris en compte, mais dans la dernière théorie, effectivement, des équipes françaises, il y a 3-4 ans, finalement, on venait à une nouvelle théorie qui disait, c'est de l'urine très diluée. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette expérience, finalement, les femmes disaient « Oui, mais attendez, moi j'ai été faire pipi avant, j'avais la vessie vide. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait dans cette expérience. Les femmes, donc, qui étaient capables d'éjaculer, avaient... capables, ça sous-entend que ce serait une capacité. Attention, je ne veux absolument pas dire que c'est une capacité importante. Mais en tout cas, on avait fait une échographie et on voyait qu'effectivement, la vessie était vide avant le début de l'acte. Et puis, on faisait une deuxième échographie pendant l'acte sexuel et on voyait que la vessie s'était remplie. Ce qui est normal, puisque quand on est en activité physique un peu intense, que le cœur s'accélère, bien la filtration au niveau des reins s'accélère et donc la production d'urine augmente. Donc, ce n'est pas forcément choquant que la vessie se remplisse. Et puis, évidemment, ils ont fait la troisième échographie après l'éjaculation de ces femmes et ils se sont aperçus que la vessie s'était vidée. Donc, ils sont partis de ce raisonnement pour dire, vous voyez bien que c'est bien la vessie qui se remplit et c'est bien la vessie qui se vide avec de l'urine hyper diluée, peut-être mélangée à, effectivement, un peu de sécrétion de cette prostate embryonnaire dont je parlais.
Mais 1 millilitre ou pas plus.
1 ou 2 millilitres, mais ça suffit pour que si on fasse des dosages, on s'aperçoit qu'il y a du PSA, donc on se dit, tiens, vous voyez bien que c'est un orgasme prostatique chez la femme. Voilà, ils en sont restés à cette analyse, et finalement de dire, les femmes qui éjaculent font simplement, émettent simplement de l'urine hyper diluée, éventuellement mélangée à des sécrétions prostatiques.
Et vous, Ovidie, qu'est-ce que ça vous inspire, les résultats de cette étude-là ?
Moi, j'y crois pas trop. Encore une fois, je suis pas dans une démarche scientifique. Je suis vraiment dans une pure démarche empirique, homemade, quoi. Mais il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une expérience avec du bleu de méthylène, parce que j'avais des problèmes de cystite. Et je prenais un truc qui ne se vend plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Mictazole bleu. C'était des petits comprimés bleus et qui faisait faire pipi bleu schtroumpf. Mais vraiment, vraiment très, très, très bleu, quoi. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais sous Mictazole bleu. Quelques temps avant un rapport sexuel, j'étais allée aux toilettes, je faisais bien bleu. J'ai eu un rapport sexuel avec éjaculation. Les draps étaient inondés, mais translucides, quoi. Voilà, aucune couleur, juste une toute petite trace à un endroit, mais vraiment toute petite, comme si finalement il y avait un flot qui était passé dans mon urètre et qu'il devait y avoir dans l'urètre un petit résidu de Mictazole, quoi. Mais donc absolument pas bleu. Je suis allée aux toilettes après le rapport sexuel et j'ai fait pipi bleu. Donc, Je sais pas, mais
voilà, elle vient de remettre en cause la théorie de cette théorie parce que si effectivement à partir du moment où ça s'est produit une fois, eh bien ça veut dire qu'il faut un nouveau protocole expérimental. La science aime les protocoles dans lequel on va faire ce type d'expérience pour vérifier après tout est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est pas bleu, et si c'est pas bleu, il faudra bien conclure que ça ne vient pas de la vessie.
Donc c'est peut-être autre chose.
Moi, je pense que c'est tout à fait autre chose. Et parce je pense que même que c'est important aussi de défendre que c'est autre chose. Ça ne veut pas dire être malhonnête et inventer.
Peut-être que les deux explications valent. C'est-à-dire que peut-être que pour certaines femmes, ça, c'est du liquide qui provient effectivement de la vessie. Parce qu'il y a des femmes qui, par exemple, décrivent le fait que c'est beaucoup plus facile pour elles d'éjaculer quand elles ont bu beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a des actrices porno aussi qui disaient ça, qu'avant les scènes où on va leur demander d'éjaculer, on leur fait boire beaucoup, beaucoup d'eau. Enfin, elles boivent beaucoup, beaucoup d'eau parce que ça va être plus facile d'expulser ce liquide-là. On peut aussi voir, il y a des femmes qui rapportent aussi le fait que si elles ne boivent pas beaucoup, eh ben, le liquide en question, il va légèrement sentir l'urine, alors que si elles boivent beaucoup d'eau, ça ne va pas du tout sentir l'urine, par exemple.
Après, pour les actrices, celles qui témoignent de ça, est-ce que c'est vraiment une éjaculation féminine ou pas ? Enfin, c'est une vraie question aussi, ou est-ce que c'est le fait d'avoir la vessie pleine et un acteur qui s'acharne en mettant ses doigts en crochet, en disant « Ah, tu veux te faire squirter ?» Est-ce que c'est vraiment ça ou pas ? Enfin, donc, je ne sais pas. Franchement, en toute honnêteté, je ne sais pas. Je peux juste témoigner de ce que moi, j'ai pu observer, de ce que j'ai pu observer chez certains de mes partenaires et je suis certaine que ce que j'ai vu et ce qui est sorti de mon corps n'était absolument pas de l'urine, ça j'en suis sûre.
Et ça peut être quoi? C'est la question.
C'est
la question à un million d'euros. Hein, mais
le problème, c'est que les études scientifiques, déjà, elles sont pas faciles à faire, elles sont pas faciles à monter sur le sujet. Ouais. C'est la fameuse histoire d'Odile Buisson qui, il y a une dizaine d'années, avait essayé de faire des expériences à partir donc d'échographie, voulait prouver l'origine de l'éjaculation féminine par des échographies. Le problème, c'est pas forcément facile à faire, c'est-à-dire faut réussir à avoir un orgasme avec éjaculation tout en ayant la sonde sur le ventre. Donc ça déjà, c'était pas facile. Mais en plus, de toute façon, ces résultats ne pouvaient être validés puisqu'ils n'étaient pas assurés. C'est-à-dire, en fait, pour faire des expériences scientifiques comme ça, pour qu'elles soient validées, qu'il y ait publication scientifique derrière, etc., il faut qu'il y ait une assurance, etc.
Elle
n'en trouvait pas.
Et elle le raconte dans son livre, elle ne trouvait pas d'assureur. Il faut aussi un comité d'éthique. Hein. Toute expérimentation humaine doit passer par un comité d'éthique qui doit valider l'étude, donc ils voire de l'intérêt, et je ne vous cache pas que les comités d'éthique sont parfois de composition assez phallique et ne voient pas forcément l'intérêt de se préoccuper de ça. À partir du moment où il n'y a pas une pathologie, une maladie, ils auraient presque envie de dire faites autre chose comme étude, hein, des études sur la douleur vaginale par exemple, des choses comme ça. On a envie de leur répondre, ça ne vous regarde pas, si j'ai envie de faire cette étude, simplement je vous demande qu'on veille à l'éthique, certes, que les gens volontaires soient informés et qu'il n'y ait pas de danger, bon voilà. Mais en pratique, trouver des financements, des assurances, des comités d'éthique qui acceptent, des structures aussi, parce que ça se passe du coup le soir quand l'IRM ou les appareils ou les lieux sont un peu libérés. Enfin bref, c'est très compliqué. Maintenant, ça avait été fait dans les années par Masters et Johnson dans les années 70. Donc, c'est pas impossible de faire ces études quand vraiment on veut les faire.
Et je vais vous dire aussi pourquoi ça pose problème quand même de ne pas reconnaître vraiment la nature de ce liquide-là et de l'assimiler uniquement à de l'urine. Il y a eu un exemple en 2010 avec la réalisatrice Anna Spann, qui est une réalisatrice de porno féministe au Royaume-Uni. Elle avait eu un problème avec un film qui s'appelait Women Love Porn, qui avait été censuré, qui avait été interdit pour obscénité. Pourquoi ? Parce qu'il avait été, il y avait une scène d'éjaculation féminine et que ça avait été assimilé à l'urophilie. Et donc légalement, ça ne pouvait pas passer. Et donc il y avait eu recours, etc., etc. Et ce qui lui avait été dit, donc le film est resté interdit, ce qui lui avait été dit, c'était que tant que ça n'était pas scientifiquement prouvé, jusqu'à nouvel ordre, c'était de l'urine. Donc c'est pour vous dire le danger qu'il y a aussi à affirmer que finalement ça serait jamais que de l'urine. Canal+, par exemple, qui donc diffuse des films porno depuis 30-35 ans, je sais pas, pendant très longtemps a demandé aux réalisateurs de couper les scènes d'éjaculation féminine. Pourquoi ? Parce que le service juridique de Canal+ considérait qu'il s'agissait d'urophilie. Alors que c'était finalement une expression aussi de plaisir féminin à l'écran. Donc on se privait de ces scènes-là parce qu'on estimait que c'était de la pisse. C'est problématique. C'est pour ça que je dis que ça reste quand même dangereux, ça reste un véritable enjeu, cette histoire de nature de l'éjaculat.
Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça éjaculation ? Est-ce que c'est qu'en miroir avec le mécanisme masculin, ce qui expliquerait aussi là, sa hausse de popularité dans les tags du porno et tout ?
J'aimerais qu'il y ait un autre terme. C'est vrai qu'en anglais, on dit squirting. En anglais, en français, on n'a pas de terme fantastique pour ça. J'aimerais qu'il y ait un autre terme pour justement
pas... On parlait de femme fontaine, mais il y avait un côté licorne à la femme fontaine, comme un côté des
femme
créatures
femme
mythiques.
À barbe.
Ouais, un côté femme à barbe. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il y a le côté mythique. Quand on dit femme fontaine, on imagine... En même temps, il y a un côté nourricier, il y a un côté qui... Mais est-ce que justement, on n'essaie pas de recantonner la femme dans un rôle particulier. C'est toujours difficile et toujours dangereux, effectivement, de mettre des mots. Ceci dit, ça ne sera pas facile de lutter contre l'idée d'éjaculation féminine. Hein, parce que d'abord, il y a des féministes qui le défendent en disant que c'est égalitaire. Ça montre que la femme, elle aussi, peut avoir une éjaculation. Je pense que ce sera difficile de défendre un autre terme, sauf si on trouve finalement un mécanisme physiologique hein, qui est différent. Et je pense notamment, puisque dans la lubrification, par exemple, c'est bien les parois vaginales qui transsudent, hein, c'est-à-dire que le sang qui est de l'autre côté de la paroi, pour schématiser, va laisser passer une partie hein, de plasmatique, enfin voilà, etc. C'est pas vraiment du plasma non plus, mais en fait, un liquide qui permet de lubrifier le vagin. Donc, est-ce que ce transsudat vaginal, par exemple, peut être augmenté de façon très importante chez certaines femmes, ce qui expliquerait des lubrifications très abondantes ? Ça expliquerait pas pour autant des émissions hein, par exemple, sauf si vraiment on considère que d'un seul coup il y a un relâchement et donc énormément de production par les parois du vagin et que bah, des mouvements de piston ou autres peuvent faire que ça gicle par exemple. Si en plus il y a des contractions, mais enfin les muscles du périnée n'entourent pas le vagin comme un pressoir. Maintenant, si on est dans des positions de flexion importantes, il peut y avoir une pression intra-abdominale. Bref, il y a un mécanisme peut-être aussi à creuser, à découvrir. Si, j'ai bien si, on découvrait que c'est un transsudat vaginal, une lubrification, on pourrait cette fois-ci changer le terme. Donc, il faut pousser plus loin les investigations. Et là, on trouvera peut-être le bon terme qui correspond vraiment à ce qui se passe dans ces phénomènes que personne ne peut nier.
Trois phénomènes différents, quoi. C'est
peut-être
à la
aussi.
Fois l'émission de liquide, il y aurait peut-être un mécanisme qui provient de l'urètre, de la vessie, etc. Il y a aussi cette hypothèse du transsudat, et puis il y a l'éjaculation de 1 ml ou 2 ml qui provient des glandes de Skene, et peut-être que tout ça est mélangé, peut-être que c'est différent selon chaque femme.
Il y a un truc quand même qui me perturbe, c'est que, je sais pas, ça va peut-être parler à certaines femmes qui écouteront, mais quand on est dans un rapport sexuel, ou même qu'on se masturbe, ou même qu'on est très excité, ou c'est quand même hyper compliqué de faire pipi. Moi, je sais qu'après un rapport, je ne sais pas. Je sais que pour les garçons, il y a un peu ce phénomène aussi de contraction.
Oui.
Il me faut un petit moment avant que la machine se remette en route et qu'il soit possible d'uriner. Donc, moi, ça me surprend quand même, pendant un rapport sexuel, de réussir à uriner comme ça. Enfin, en général, les mécanismes se bloquent quand même
mais
à ce niveau-là.
Oui, d'ailleurs, chez l'homme, c'est pareil.
On ne peut pas uriner, on a une érection.
Chez l'homme, c'est compliqué. Alors, on peut pas. Si, on peut. Certains hommes, on a aussi des signes noirs, on a aussi des hommes qui arrivent à uriner en érection. Parce qu'on peut vaincre l'obstacle finalement. Effectivement, les tissus sont gorgés de sang et vont fermer finalement la partie vésicale. Mais on pourrait dire aussi, à contrario, que ça plaide en faveur du mécanisme d'expulsion, d'éjaculation, d'émission. Parce que justement, s'il y a un obstacle à vaincre, ça veut bien dire qu'il faut que la pression de l'autre côté soit assez forte à un moment. Et c'est seulement quand ça arrive à vaincre la pression que ça jaillit. Alors que s'il n'y avait pas du tout d'obstacle, ça s'écoulerait. Et peut-être aussi d'ailleurs qu'à certains moments, ça s'écoule simplement. Paisiblement, si on peut dire, sous le fait de l'excitation, et qu'à d'autres moments, c'est trop gorgé, trop fermé, et il y a trop de production derrière, ce qui fait que là, il y a l'éjaculation, l'émission. En tout cas, on voit bien que dans cette zone, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et je me souviens d'un congrès, il y a une vingtaine d'années, où une femme, Brigitte Morois, qui pourtant a été critiquée après, à mon avis, à tort, parce que je ne sais plus ce qu'elle avait dit sur le clitoris, qui avait choqué les féministes, mais moi, je me souviens de l'avoir vue devant un congrès d'urologues essentiellement composé d'hommes, et les accuser, mais vraiment très clairement, de n'avoir attaché aucune importance à tous les réseaux nerveux qui passent le long du vagin, de l'utérus, quand ils faisaient une hystérectomie, c'est-à-dire quand ils faisaient cette opération où on est obligé d'enlever l'utérus. Et elle les avait accusés clairement, hein, dans son topo, ça avait fait un peu de remous d'ailleurs, de ne pas se préoccuper de toute cette innervation, de préserver tous ces filets nerveux, ce qu'on fait de façon très méticuleuse quand on est urologue, alors j'espère que ça a changé aujourd'hui, enfin pas pour les hommes mais pour les femmes, pour préserver l'érection évidemment, mais ne pas se soucier du tout de ces réseaux nerveux pour les femmes, alors que c'est des réseaux nerveux qui vont aller jusqu'à la zone vulvaire et clitoridienne. Donc on voit que finalement méconnaître l'anatomie, c'est peut-être aussi source de souffrance lors de certaines interventions où on ne va pas faire attention, tout simplement parce qu'on ne se préoccupe pas de préserver un endroit
parce
du corps.
Parce qu'on ne connaît pas encore bien les mécanismes.
Je pense aussi, voilà, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est ce que je viens de dire, donc je le poursuis pour les hommes. Avec le ligament suspenseur du pénis qui se trouve au-dessus du pénis, chez certains hommes, on a proposé, des urologues ont proposé l'intervention de le sectionner pour donner l'impression que le pénis est plus grand. Hein, et donc, on sectionne ce petit ligament suspenseur qui se trouve au-dessus du pénis. Sauf que maintenant, on s'aperçoit aussi physiologiquement que parfois, c'est ce ligament qui comprime le réseau veineux et donc qui maintient une meilleure érection. Donc, croyant bien faire, en tout cas satisfaire l'homme qui voulait avoir un pénis qui paraît plus grand, eh bien, on a compromis son érection. Donc, connaître l'anatomie, c'est aussi important dans certains cas, même si, encore une fois, la sexualité est loin de se résumer, heureusement, à l'anatomie.
Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des légères différences anatomiques selon les femmes, qui du coup pourraient expliquer que tous les mécanismes de que les mécanismes de plaisir et ces manifestations, etc., soient légèrement différentes en fait selon les femmes, qu'il y ait autant de manières de jouir, de prendre du plaisir, de techniques et tout qu'il y a de femmes.
Si on revient spécifiquement sur la question de l'éjaculation féminine, ouais. La constante quand même, c'est que on remarque que les femmes qui entretiennent mieux leur périnée, c'est-à-dire font plus d'exercices de contraction, qui entretiennent plus leur tonicité périnéale, on va dire, ont plus de chances d'éjaculer. Donc il y a un lien qui est facile. C'est-à-dire, ça peut aussi s'exercer. C'est pas juste, à mon avis, une prédisposition anatomique. Ça peut aussi s'exercer. Mais s'exercer, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on s'exerce ? Est-ce qu'on le fait pour des questions de performance, en se disant, voilà, je vais faire plein d'exercices de contraction périnéale parce que comme ça, je vais réussir enfin à éjaculer ? Ou est-ce que on le fait pour sa propre expérience, parce qu'on a plus de plaisir, on a observé que pendant qu'on avait une éjaculation, on jouissait plus fort. C'est vrai pour certaines femmes, c'est faux pour d'autres. Voilà, on peut se demander aussi la question de pourquoi est-ce qu'on s'exerce à le faire. Mais en tout cas, techniquement, on peut s'exercer à le faire en se musclant, quoi.
C'est vrai qu'anatomiquement, on est tous fait pareil. Voilà. Il y a une base, on va dire, et puis il y a ce que les anatomistes appellent les variantes. Donc évidemment, on a énormément de variantes, hein, de l'appendicite qui peut se trouver à droite ou à gauche chez certains. Il y a énormément de variantes possibles. Donc c'est pas absurde, effectivement, qu'on ait des capacités différentes. Hein. On peut avoir des plus ou moins de contractions rapides dans nos muscles qui font qu'on va être doué pour le sprint ou pas. On a vraiment des variations qui sont importantes. Il faut les mesurer, effectivement, pour s'en rendre compte et pour les voir. Maintenant, c'est vrai que les mécanismes de base, en général, sont quand même très communs à 95%. Si on parle de l'éjaculation des hommes, à 95%, maintenant, on connaît quand même très bien le mécanisme et il est commun à tous les hommes. Donc, on voit mal pourquoi le mécanisme serait différent chez les femmes. Ensuite, effectivement, est-ce que l'anatomie prédispose ou prédispose pas, c'est autre chose.
Il y a aussi quand même une énorme dynamique culturel derrière tout ça. Victor m'a fait découvrir pendant qu'on préparait l'émission qu'au Rwanda, par exemple, l'éjaculation féminine était très bien vue.
L'objet d'un documentaire
qui s'appelle L'eau sacrée d'Olivier Jourdain. C'est encore extrêmement mal perçu, mythifié dans notre société à nous, occidentale.
Bah, c'est vrai que c'est une question culturelle, puisqu'on observe par exemple que dans les milieux féministes, et a fortiori les milieux féministes pro-sexe, forcément, de fait, proportionnellement, il y a plus de femmes qui éjaculent, parce qu'elles associent ça à quelque chose de positif, tout simplement. Mais en fait, il y a la sensation, il y a la réalité anatomique, mais il y a aussi la façon dont notre cerveau traduit la sensation. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Y a plein de femmes, par exemple, qui sont pas loin techniquement de l'éjaculation, mais qui ne vont pas éjaculer parce que ça leur fait mal. C'est une sensation qui est très vive. Donc pour certaines, c'est comme l'histoire du plaisir cervical ou de la douleur cervicale. Il y a certaines femmes qui vont traduire cette stimulation cervicale
au niveau du col.
Il y a des femmes qui vont trouver que c'est extrêmement douloureux. Il y a d'autres qui vont se laisser porter qui vont y prendre du plaisir de cette façon-là. Pour l'éjaculation, c'est un petit peu la même chose. C'est que ça peut être obtenu par une sensation qui, pour certaines femmes, va être traduite comme une forme de douleur.
Ou comme sous la forme de j'ai envie d'uriner, donc il faut que je me retienne pour ne pas... et en fait, ce qu'elles retiennent, c'est pas leur jet d'urine, c'est l'éjaculation.
C'est ça.
Mais pour le coup, le cerveau peut vite s'embrouiller, effectivement, entre des sensations très proches. Et puis, c'est vrai qu'il y a une valeur affective, tout ce qui est sensoriel, hein, tout ce que vos organes d'essence envoient vers votre cerveau, va prendre une valeur sensorielle. Si, effectivement, si par exemple, je passe mon doigt sur le bras d'Ovidie, bon, on se connaît, je pense qu'elle n'est pas choquée et elle n'a pas de sensation désagréable, mais pour autant, elle n'a pas une sensation érotique. Je ne suis pas son amant, elle n'a pas une sensation affectueuse, je ne suis pas son enfant, elle n'a pas la sensation désagréable qu'elle aurait avec exactement la même pression, le même mouvement si ça s'était passé dans le métro. Donc on voit bien que résumé au sensoriel, c'est complètement absurde. Il y a la valeur affective qui va être donnée par notre cerveau, qui va inclure d'ailleurs notre mémoire, qui va inclure le contexte, et tout ça fait que la sensation qu'on a perçue prend une valeur complètement différente, et c'est valable également pour tout ce qui est sexuel.
Le cerveau, zone érogène ultime, ce sera finalement l'une des choses essentielles à retenir de cette réflexion en deux temps sur le plaisir, ce début de réflexion même, pourrait-on dire, parce qu'il nous reste énormément de questions.
Moi, pour aller plus loin sur ces sujets, je vous conseille un spectacle formidable que j'ai vu. Ça s'appelle « La fonction de l'orgasme ». C'est joué par la comédienne Constance Larieux. C'est drôle, on s'ennuie pas une minute et on apprend énormément de choses. Donc c'est au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 18 mai. Alors oui, désolé, c'est encore à Paris. Mais c'est seulement 10 euros si vous avez moins de 26 ans. Franchement, ça vaut le coup. Allez-y, emmenez vos amis, vos crushs, vos dates, vos parents. Vous allez apprendre plein de trucs sur les orgasmes.
Merci une nouvelle fois à Ovidie et Damien Mascret pour leurs réponses. Une nouvelle fois, merci à toi, Victoire, d'avoir mené ces épisodes avec moi. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Si vous ne voulez manquer aucun de nos épisodes, on ne peut que chaudement vous conseiller de vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Si vous voulez nous parler, l'idéal, c'est Facebook ou Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.